Jules Verne, Le Sphinx des glaces. Deuxième partie, chapitre 7. L'iceberg culbuté. Je dus ramper sur le plancher du roof pour atteindre la porte et gagner le pont. Le capitaine Lenghi, ayant déjà quitté sa cabine, se traînait sur les genoux, tant la bande était accusée, et il vint s'accrocher de son mieux au râtelier de tournage des pavois. Vers l'avant, entre le gaillard et le mât de misaine, quelques têtes sortaient des plis de la trinquette, abattues comme une tente dont la drisse aurait largué. Étaient suspendus au haut banc de tribord Dirk Peters, Hardy, Martin Holt, Endicott, sa face noire toute hébétée. Il est à croire qu'à cette heure, le bossman et lui eussent volontiers cédé à 50% les primes qui leur étaient dues depuis le 24e parallèle. Un homme parvint jusqu'à moi, en rampant, car l'inclinaison du pont empêchait de se tenir debout, au moins 50 degrés. C'était Hurliguerly, qui se paumoyait à la façon d'un gabier sur une vergue. Étendu de tout mon long, les pieds appuyés contre le chambranle de la porte, je ne craignais plus de glisser jusqu'à l'extrémité de la coursive. La main que je tendis au bossman l'aida à se hisser, non sans peine, près de moi. « Qu'y a-t-il ? » lui demandai-je. « Un échouement, monsieur Jorling. »« Nous sommes à la côte ? » m'écriai-je. « Une côte suppose une terre, » répondit ironiquement le bossman. « Et en fait de terre, il n'y en a jamais eu que dans l'imagination de ce diable de Dirk Peters. Enfin, qu'est-il arrivé ?»« Il est arrivé un iceberg au milieu de la brume. Un iceberg dont on a pu se garer. »« Un iceberg, bossman ?»« Oui, un iceberg. » qui a choisi ce moment pour faire la culbute. En se retournant, il a rencontré l'Holbrain, et il l'a enlevé comme une raquette ramasse un volant. Et nous voici maintenant échoués à une bonne centaine de pieds au-dessus du niveau de la mer Antarctique. Aurait-on pu imaginer plus terrible dénouement à l'aventureuse campagne de l'Holbrain ? Au milieu de ces extrêmes parages, notre unique moyen de transport venait d'être arraché de son élément naturel, emporté par le basculage d'un iceberg à une hauteur qui dépassait 100 pieds. Oui, je le répète, quel dénouement. De s'engloutir au plus fort d'une tempête, d'être détruit dans une attaque de sauvages, d'être écrasé entre des glaces, ce sont les dangers auxquels s'expose tout navire engagé dans les mers polaires. Mais que l'Holbrain eût été soulevé par une montagne flottante, à l'instant où cette montagne se retournait, et qu'elle fût, à cette heure, échoué presque à sa cime, non, cela dépassait les limites du vraisemblable. Avec les moyens dont nous disposions, parviendrions-nous à descendre la goélette de cette hauteur? Je l'ignorais. Ce que je savais d'autre part, c'est que le capitaine Lenghi, le lieutenant, les anciens de l'équipage, revenus d'un premier effroi, ne seraient pas gens à désespérer, si effrayante que fût la situation. De cela je ne doutais pas. Oui, ils s'emploieraient tous au salut commun. Quant aux mesures qu'il y aurait à prendre, personne ne l'eût pu dire encore. En effet, un voile de brume, une sorte de crêpe grisâtre, enveloppait toujours l'iceberg. On ne voyait rien de son énorme masse, si ce n'est l'étroite anfractuosité dans laquelle la goélette était coincée, ni quelle place il occupait au milieu de cette flottille en dérive vers le sud-est. La plus élémentaire prudence commandait d'évacuer l'Holbrain, dont le glissement pouvait être déterminé par quelques brusques secousses de l'iceberg. Étions-nous même certains qu'il eût définitivement repris son assiette à la surface de la mer? Sa stabilité était-elle assurée? Ne fallait-il pas s'attendre à quelques nouvelles culbutes? Et si la goélette dévalait dans le vide, qui de nous aurait pu se tirer sain et sauf d'une pareille chute, puis de l'engloutissement final dans les profondeurs de l'abîme? En quelques minutes, l'Holbrain fut abandonné de l'équipage. Chacun chercha refuge sur les talus, en attendant que l'iceberg se dégageât de son capuchon de vapeur. Les obliques rayons solaires ne parvenaient point à le percer, et c'est à peine si le disque rougeâtre se sentait à travers cet amas d'opaques vésicules qui en éteignait le flamboiement. Cependant, à une douzaine de pas, on pouvait s'apercevoir les uns les autres. Quant à l'Holbrain, elle ne présentait qu'une masse confuse, dont la couleur noirâtre tranchait vivement sur la blancheur des glaces. Il y eut alors lieu de se demander si, de tous ceux qui se tenaient sur le pont de la Goélette au moment de la catastrophe, aucun n'avait été projeté par-dessus les bastingages, entraîné sur les pentes, précipité dans la mer. À l'ordre du capitaine Lenghi, les matelots présents vinrent grossir le groupe où j'étais avec le lieutenant, le bossman, les maîtres Hardy et Martin Holt. James West fit l'appel. 5 de nos hommes ne répondirent pas. Le matelot Drap, un des anciens de l'équipage, et 4 des recrues, à savoir 2 Anglais, un Américain et un des Fuédiens embarqués aux Falklands. Ainsi cette catastrophe coûtait la vie à 5 des nôtres. Les premières victimes de cette campagne depuis le départ des Kerguelen, et seraient-ce les dernières. Et en effet, il n'était pas douteux que ces malheureux eussent péri, car on les appela vainement. Vainement on les chercha sur les flancs de l'iceberg, partout où ils auraient peut-être pu s'accrocher à quelque saillie. Les tentatives qui furent faites après le lever du brouillard demeurèrent infructueuses. Au moment où l'Hullbrain avait été saisi par-dessous, la secousse avait été si violente, si soudaine, que ces hommes n'eurent pas la force de se retenir au bastingage, et vraisemblablement, on ne retrouverait jamais leur corps, que le courant avait dû entraîner au large. Lorsque cette disparition de 5 des nôtres eut été constatée, le désespoir envahit tous les cœurs. Alors apparut plus vivement l'affreuse perspective de ces dangers qui menacent une expédition à travers la zone antarctique. « Et Hearn ?» dit une voix. Martin Holt venait de jeter ce nom au milieu du silence général. Le Sealing Master, que nous avions oublié, n'avait-il pas été écrasé dans l'étroit réduit de la cale où il était enfermé? James West s'élança vers la goélette, se hissa au moyen d'une amarre qui pendait de l'avant, et gagna le poste par lequel on pénétrait dans cette partie de la cale. Nous attendions immobiles et silencieux, d'être fixés sur le sort de Hearn, bien que ce mauvais génie de l'équipage fût peu digne de pitié. Pourtant, combien de nous pensaient alors que si on eût écouté ses conseils, si la goélette avait repris la route du nord, tout un équipage n'en serait pas à n'avoir pour unique refuge qu'une montagne de glace en dérive. Et dans ces conjectures, ce que devait être ma part de responsabilité, moi qui avais tant poussé à la prolongation de cette campagne, c'est à peine si j'osais l'envisager. Enfin le lieutenant reparut sur le pont, Hearn après lui. Par miracle, ni les cloisons, ni la membrure, ni le bordage n'avaient cédé à l'endroit où se trouvait le Sealing Master. Hearn se déhala le long de la goélette, rejoignit ses camarades sans prononcer une parole, et il n'eut plus à s'occuper de lui. Vers 6 heures du matin, le brouillard se dissipa, grâce à un abaissement assez accentué de la température. Il ne s'agissait pas de ces vapeurs dont la congélation est complète, mais bien du phénomène appelé frost rim, ou fumée gelée, qui se produit quelquefois sous ces hautes latitudes. Le capitaine Lenghi le reconnut à la quantité de fibres prismatiques, la pointe dirigée dans le sens du vent, qui hérissait la légère croûte déposée sur les flancs de l'iceberg. Ce frost rim, les navigateurs ne sauraient le confondre avec la gelée blanche des zones tempérées, dont la congélation ne s'opère qu'après son dépôt à la surface du sol. On put alors évaluer la grosseur du massif sur lequel nous étions posés comme des mouches sur un pain de sucre, et assurément, vu d'en bas, la goélette ne devait pas paraître plus grosse que la yole d'un navire de commerce. Cet iceberg, dont la circonférence parut être de 300 à 400 toises, mesurait de 130 à 140 pieds de hauteur. Il devait donc, d'après les calculs, plonger à une profondeur 4 à 5 fois plus grande, et par conséquent peser des millions de tonnes. Voici ce qui était arrivé. Après avoir été miné à sa base, au contact des eaux plus chaudes, l'iceberg s'était peu à peu relevé. Son centre de gravité déplacé, l'équilibre n'avait pu se rétablir que par un chavirement brusque, qui reporta au-dessus du niveau de la mer ce qui était en dessous. Prise dans ce basculage, l'Hullbrain fut enlevée comme avec un énorme bras de levier. Nombre d'icebergs se retournent ainsi à la surface des mers polaires, et c'est un des plus gros dangers auxquels sont exposés les navires qui les avoisinent. C'était dans une échancrure de la face ouest de l'iceberg que notre goélette se trouvait encastrée. Elle inclinait sur tribord, son arrière relevé, son avant rabaissé. La pensée nous venait qu'à la moindre secousse, elle glisserait le long des pentes de l'iceberg jusqu'à la mer. Du côté où elle donnait la gîte, le choc avait été assez violent pour défoncer quelques bordages de sa coque et de ses pavois sur une longueur de 2 toises. Dès le premier choc, la cuisine, fixée devant le mât de misaine, avait cassé ses saisines et dégringolé jusqu'à l'entrée du roof, dont la porte, entre les 2 cabines du capitaine Lenghi et du lieutenant, était arrachée de ses gonds. Le mât de hune et le mât de flèche étaient venus en bas, après la rupture des galobans, et on apercevait leurs brisures toutes fraîches, à la hauteur du chouquet. Des débris de toutes sortes, les vergues, des espars, une partie de la voilure, des barils, des caisses, des cages à poules, devaient flotter à la base du massif et dériver avec lui. Ce qu'il y avait de particulièrement inquiétant dans notre situation, c'est que des 2 embarcations de l'Hullbrain, celle de Tribord ayant été écrasée au moment de l'abordage, il ne restait que la seconde. La plus grande, il est vrai, encore suspendue par ses palans au pistolet de tribord. Avant tout, il fallait la mettre en sécurité, car peut-être serait-elle notre unique moyen de salut. De ce premier examen, il résultait que les bas-mâts de la goélette étaient restés en place, et pourraient servir, si l'on parvenait à la dégager. Mais comment l'extraire de cette souille de glace, la rendre à son élément naturel, en un mot, la lancer, comme on lance un bâtiment à la mer. Lorsque le capitaine Lenghi, le lieutenant, le bossman et moi nous fûmes seuls, je les interrogeai à ce sujet. « Que l'opération entraîne de gros risques, j'en conviens, » répondit Jem West. « Mais puisqu'il est indispensable qu'elle se fasse, nous la ferons. Je pense qu'il sera nécessaire de creuser une sorte de lit jusqu'à la base de l'iceberg. » Et sans tarder d'un seul jour, ajouta le capitaine Lenghi. Vous entendez, bossman, reprit Jem West, dès aujourd'hui à la besogne. J'entends, et tout le monde s'y mettra, répondit Hurliguerly. Une observation toutefois, si vous le permettez, capitaine. Laquelle? Avant de commencer le travail, visitons la coque. Voyons quelles sont ses avaries et si elles sont réparables. À quoi servirait de lancer un navire décarcassé, qui s'en irait immédiatement par le fond? On se rendit à la juste demande du bossman. La brume s'étant dissipée, un clair soleil illuminait alors la partie orientale de l'iceberg, d'où le regard embrassait un large secteur de mer. De ce côté, au lieu de surfaces lisses sur lesquelles le pied n'aurait pu trouver un point d'appui, les flancs présentaient des anfractuosités, des rebords, des épaulements, des plateaux même, où il serait facile d'établir un campement provisoire. Cependant, il y aurait à se garer contre la chute d'énormes blocs, balles en équilibre, qu'une secousse pouvait détacher. Et de fait, pendant la matinée, plusieurs de ces blocs roulèrent avec un effroyable bruit d'avalanche jusqu'à la mer. Au total, il semblait bien que l'iceberg fût très solide sur sa nouvelle base. D'ailleurs, si son centre de gravité se trouvait au-dessous de la ligne de flottaison, un nouveau renversement n'était pas à craindre. Je n'avais pas encore eu l'occasion de parler à Dirk Peters depuis la catastrophe. Comme il avait répondu à l'appel de son nom, je savais qu'il ne comptait pas parmi les victimes. En ce moment, je l'aperçus immobile, debout sur une étroite saillie, et de quel côté se portaient ses regards, on le devine. Le capitaine Lenghi, le lieutenant, le bossman, les maîtres Hardy et Martin Holt, que j'accompagnais, remontèrent alors vers la goélette, afin de procéder à un minutieux examen de la coque. Du côté de bâbord, l'opération serait aisée, puisque l'Hullbrain s'inclinait sur le flanc opposé. De l'autre côté, il faudrait, tant bien que mal, se glisser jusqu'à la quille en creusant la glace, si l'on voulait qu'aucune partie du bordé n'échappât à cette visite. Voici ce qui fut reconnu après un examen qui dura 2 heures. Les avaries étaient peu importantes et, en somme, de réparation courante. 2 ou 3 bordages rompus, sous la violence du choc, laissaient voir leurs gournables fossés, leurs coutures ouvertes. À l'intérieur, la membrure était intacte, les varangues n'ayant point cédé. Notre bâtiment, fait pour naviguer au milieu des mers polaires, avait résisté alors que tant d'autres, moins solidement construits, eussent été disloqués de toutes pièces. Il est vrai, le gouvernail avait été démonté de ses ferrures, mais il serait facile de le rétablir. L'inspection terminée au dehors et au dedans, le dommage fut reconnu moins considérable qu'on eût pu le craindre, et nous fûmes rassurés à ce sujet. Rassurés ? Oui, si nous parvenions à remettre à flot notre goélette. Après le déjeuner du matin, il fut décidé que les hommes commenceraient à creuser un lit oblique qui permettrait à l'Holbrain de glisser jusqu'à la base de l'iceberg. Plutôt ciel que l'opération réussit, car de braver dans ces conditions les rigueurs de l'hiver austral, de passer 6 mois sur cette masse flottante, entraînée on ne savait où, qui eût pu y songer sans épouvante? L'hiver venu, aucun de nous n'aurait échappé à la plus terrible des morts, la mort par le froid. En ce moment, Dirk Peters, qui, à une centaine de pas, observait l'horizon du sud à l'est, cria d'une voix rude. « En panne !»« En panne ?» Qu'entendait par là le métis, si ce n'est que la dérive de l'iceberg venait de cesser subitement. Quant à la cause de cet arrêt, ce n'était pas l'instant de le rechercher, ni de se demander quelles en seraient les conséquences. « C'est pourtant vrai !» s'écria le bosseman. « L'iceberg ne marche pas. Et peut-être même n'a-t-il jamais marché depuis sa culbute. « Comment ? » m'écriai-je. « Il ne se déplace plus ?»« Non, » me répondit le lieutenant. « Et la preuve, c'est que les autres qui défilent le laissent en arrière. » En effet, tandis que 5 ou 6 montagnes de glace descendaient vers le sud, la nôtre s'était immobilisée, comme si elle eût été échouée sur un haut fond. L'explication la plus simple était que sa nouvelle base avait rencontré le seuil sous-marin, auquel elle adhérait maintenant, et cette adhérence ne cesserait que si sa partie immergée se relevait, au risque de provoquer une seconde culbute. En somme, c'était une grave complication, car les dangers d'une immobilisation définitive en ces parages eussent été tels que mieux valaient les hasards de la dérive. Au moins avait-on l'espoir de rencontrer un continent, une île, ou même, si les courants ne se modifiaient pas, si la mer restait libre, de franchir les limites de la région australe. Voilà donc où nous en étions après 3 mois de cette terrible campagne. De William Guy, de ses compagnons de la Jane, d'Arthur Pym, pouvait-il être encore question ? N'était-ce pas pour notre salut que devaient être employés les moyens dont nous pouvions disposer ? Et faudrait-il s'étonner si les matelots de l'Holbrain se révoltaient enfin, s'ils obéissaient aux suggestions de Hearne, s'ils rendaient leur chef, moi surtout, responsable des désastres d'une pareille expédition? Et alors qu'arriverait-il, puisque malgré la perte de 4 des leurs, les camarades du Sealing Master avaient conservé leur supériorité numérique? C'était, je le vis clairement, à cela que pensaient le capitaine Lengi et Jem West. En effet, si les recrues des Falklands ne formaient plus qu'un total de 15 hommes, contre nous 13, en comprenant le métis, n'était-il pas à craindre que quelques-uns de ceux-ci fussent bien prêts de se ranger du côté de Hearne? Poussés par le désespoir, qui sait si ses camarades ne songeaient pas à s'emparer de l'unique embarcation que nous possédions désormais, à reprendre la route du nord, à nous abandonner sur cet iceberg? Il importait donc que notre canot fût mis en sûreté et surveillé à toute heure. Au surplus, un notable changement s'était produit chez le capitaine Lengi depuis ces derniers incidents. Il semblait s'être transformé en présence des périls de l'avenir. Jusqu'ici, tout à la pensée de retrouver ses compatriotes, il avait laissé au lieutenant le commandement de la goélette, et il n'aurait pu s'en remettre à un second plus capable, plus dévoué. Mais à partir de ce jour, il allait reprendre ses fonctions de chef, les exercer avec l'énergie exigée par les circonstances, redevenir comme à bord, le maître après Dieu. Par son ordre, les hommes vinrent se ranger autour de lui, sur un plateau, un peu à droite de l'Holbrain. Là étaient rassemblés, du côté des anciens, les maîtres Martin Holt et Hardy, les matelots Rogers, Francis, Gratian, Bury, Stern, le cuisinier Endicott, et j'y ajoute Dirk Peters. Du côté des nouveaux, Hearne, et les 14 autres marins des Falklands. Ces derniers composaient un groupe à part, dont le porte-parole était le Sealing Master, qui avait sur eux une influence détestable. Le capitaine Lengi jeta un regard ferme à tout son équipage et d'une voix vibrante. « Matelot de Lullbrain, dit-il, j'ai d'abord à vous parler de ceux qui ont disparu. 5 de nos compagnons viennent de périr dans cette catastrophe. En attendant que nous périssions à notre tour dans ces mers, où l'on nous a entraînés malgré... « Tais-toi, Irn !» s'écria Jem West, pâle de colère. « Tais-toi, ou sinon... » Irn a dit ce qu'il avait à dire, reprit froidement le capitaine Lengi. Et puisque c'est fait, je l'engage à ne pas m'interrompre une seconde fois. Peut-être le Sealing Master eut-il répliqué, car il se sentait soutenu par la majorité de l'équipage. Mais Martin Holt alla vivement à lui, le retint, et il se tut. Le capitaine Lengi se découvrit alors, et avec une émotion qui nous pénétra jusqu'au fond de l'âme, il prononça ces paroles. Nous avons à prier pour ceux qui ont succombé dans cette périlleuse campagne, entreprise au nom de l'humanité. Que Dieu daigne leur tenir compte de ce qu'ils se sont dévoués pour leurs semblables, et ne reste pas insensible à notre voix. À genoux, matelot de Lullbrain. Tous s'agenouillèrent sur la surface gelée, et un murmure de prière monta vers le ciel. Nous attendîmes que le capitaine Lengi se fût relevé pour nous relever aussi. « Maintenant, reprit-il, après ceux qui sont morts, ceux qui ont survécu. À cela, je dis que, même dans les circonstances où nous sommes, ils auront à m'obéir, quelque ordre que je leur donne. Je ne souffrirai ni une résistance, ni une hésitation. La responsabilité du salut commun m'appartient, et je n'en céderai rien à personne. Je commande ici comme à bord. » « À bord ? Quand il n'y a plus de navire ?» osa répondre le Sealing Master. Tu te trompes, Irn. Le bâtiment est là, et nous le rendrons à la mer. D'ailleurs, n'eussions-nous plus que notre canot, j'en suis le capitaine. Malheur à qui l'oubliera. Ce jour-là, après avoir pris hauteur avec le sextant et établi l'heure avec le chronomètre, qui n'avait pas été brisé dans la collision, le capitaine Lengi obtint le point suivant par ses calculs. Latitude, 88 degrés 55 minutes. Longitude ouest, 39 degrés 12 minutes. Lullbrain n'était plus qu'à 1 degré 5 minutes, soit 65 milles, du pôle austral.